Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Les égalades claquent en démesure. Si ces deux encagoulés casqués ont fait descendre cet homme de son véhicule d'un coup de crosse de flingue à la figure, samedi vers 5h45, avenue des Égalades, ça n'était pas pour lui voler la voiture. Les claques qu'il recevait en rafale ne demandaient en retour que son argent, elles furent exaucées. Saint-André, seul, bredouille. Arrivé seul, un flingue à la main dans ce bar-tabac du chemin vicinal du ruisseau Mirabeau, ce braqueur solitaire en repartait, samedi 17h20, les mains toujours aussi vides, mis en fuite par des employés peu coopératifs.
Les cités, donc, c'est quelque chose que j'ai jamais abandonné. Moi, je viens du 3e arrondissement, c'est pas des cités, mais c'est un quartier pauvre. Je viens de Saint-Mauran, proximité de Félix Piat, j'ai toujours eu des copains dans ces cités. Quand j'étais étudiant, j'étais agent de sécurité au Dôme et dans tous les concerts dans le sud de la France, donc tu côtoies des gens qui sont très variés, mais entre autres des petits voyous aussi, ou ceux qui allaient devenir des petits voyous. Et quand tu t'es entraîné pendant 5 ans avec des bagarres, des moments où tu te sauves la mise, tu gardes une proximité, tu gardes une amitié, quelle que soit l'idéologie et le destin de chacun. Et donc, j'ai toujours connu le contenu des petits trafics, des petits arrangements et aussi des misères sociales qui provoquent les trafics et les arrangements dans ces quartiers populaires. Quand moi, je vais dans les cités, je pars de mon idée reçue. Et moi, les idées reçues, c'est un outil journalistique. On a tous des idées reçues. On part toujours avec une idée sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Mon idée reçue de cette époque-là, c'est on te dit tout le temps que les minots des quartiers nord, ils sont pleins aux as, qu'il n'y a pas de raison qu'ils travaillent tellement ils ont de pognon, en dealant. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est vrai, ça? Ma propre idée reçue, est-ce qu'elle est bonne? Et très rapidement, en discutant avec des proches, puis après en allant les rencontrer, tu te rends compte que non, il y a un problème. C'est pas vrai. Ils sont dans un état physique, psychique. Leurs vêtements et leur vie quotidienne te montrent qu'ils sont pas pleins aux as. Quand on passe 12 heures vautrées sur un bloc de béton devant un immeuble, si t'es riche, tu fais pas ça, quoi. Et puis ils font ça tous les jours, 365 jours par an, sauf quand ils sont en prison. Donc en fait, il y a un problème. Tu regardes physiquement les dents cassées, des cicatrices partout, les yeux rouges. Tu sens que c'est des minots abîmés. Tu parles avec eux, à chaque fois, il y a des histoires personnelles qui sont terribles. Clairement, non, ils ne se gavent pas. Alors après, voilà, ça rentre là, et ben là, l'idée, c'est de toucher les jeunes. Et par exemple, à un moment, je fais... un éducateur me dit, mais tu sais, tu as déjà vu les caves de dealers? Tu as déjà vu dans telle cité, je ne vais pas dire laquelle, où toutes les caves sont reliées entre elles, et les dealers sont dessous. Ils observent par les petits fenestrons de cave l'arrivée de la police ou le problème. Et quand on arrive par le nord, ben, ils gueulent, ça passe de cave en cave, et ceux du sud le savent, et ils montent dans les immeubles. Il me dit, t'as déjà vu comment c'est là-dessous? Et je dis, non, ben, il me fait, je t'amène. Donc je vais avec lui. Je dis pas que je suis journaliste, hein, personne ne sait que vraiment qui je suis. Je vais avec lui et on descend vers les caves. Donc lui, c'est un éducateur, il connaît les minots. Et à ce moment-là, un minot le bloque. Non, tu passes pas. Et moi, il me laisse passer. Totalement incompréhensible. Il a dû penser que j'étais je sais pas quoi, je sais pas qui. Et je me retrouve là-dedans, personne ne sait qui je suis. Je suis un gars qui me fait faire le tour. Mais il sait pas vraiment où je vais, c'est pas ce que je veux, moi-même je sais plus quoi dire. Et là, j'ai senti et je passe de salle en salle, Et en fait, c'est des zombies là-dessous. Ils sont là sur leur portable, il y a des écrans, ils ont la tête qui est colorée par la lumière de l'écran, souvent en vert parce qu'ils jouent à des jeux de foot ou à des jeux à la con. J'ai fait mon petit tour, 3 minutes, et après, quand je suis ressorti, donc j'ai vu ce que c'était que leur vie à la con, parce qu'ils restent 10-12 heures là-dedans toute l'année. Je suis ressorti, un truc trop marrant, je sais pas comment dire. Il y a une mère de famille qui arrive, qui va acheter son shit, avec les dominos, Kevin et Brian, quoi, qui laissent donc milieu populaire marseillais, classe moyenne, un peu populaire, avec un gros accent. Les dominos de 12-13 ans, ils se précipitent vers les petits dealers, et en fait, ils ont l'habitude, et ils vont jouer au foot. Et en fait, la maman, elle va acheter son shit, il y a la queue et tout, et l'éducateur, il me dit, il faut halte garderie. C'est une cité qui faisait une garderie pour pas qu'ils aillent voir qu'il y a du shit, mais ils jouent au foot. Donc les dominos, ils pensaient que la mère, elle faisait quelque chose, ils savaient pas quoi, et qu'eux, ils se faisaient leur petite demi-heure de ballon hebdomadaire, quoi. Et là, tu te dis, le niveau d'organisation, il est incroyable. Il est incroyable. Et en même temps, ils sont exploités. C'est le loupen prolétariat de Marx, hein. Ils ne se battront pas pour changer le système. Ils sont totalement exploités par ce système-là et ils rêvent d'être les patrons de ce système. C'est vraiment le loupen prolétariat, hein. Et là, je me rappelle, c'est une expérience que j'ai vécue assez tôt et je me suis dit, tiens, il y a d'autres trucs à faire. C'est par les mamans que je suis passé. Parce que les assos, le problème, c'est que ils ont des visions qui sont contraintes sur leur secteur d'activité, qui est souvent la défense des jeunes, et qui est souvent l'éducation, tout ça. Donc c'est très intéressant. Si tu abordes ce sujet-là, c'est intéressant. Mais quand tu veux aborder un autre sujet qui est la drogue et les trafics, ben eux, ils n'ont pas intérêt ou ils ne connaissent pas toujours aussi bien que la réalité. Donc moi, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait passer par les mères de famille, que je commençais à avoir l'âge de ces mères de famille. Donc, il suffit d'aller discuter avec. Et je me rappelle d'une fois, j'avais donné rendez-vous au marché aux puces, là où les pauvres des quartiers nord vont faire leurs courses, ça coûte rien, avec une maman. Je l'avais suivi en scooter, on était rentré ensuite dans sa cité, et là je lui ai aidé à porter les courses. Sauf que les hommes, ça aide pas à porter les courses dans ces cités. Normalement, c'est les jeunes et les femmes, mais les mecs, ils portent pas les courses. Et elle est restée assez surprise que je porte les courses jusqu'au 2e ou 3e étage, qui n'était pas extraordinaire en soi, mais elle est restée surprise et il y a une relation qui se fait presque de ménagère à ménager, quoi. Et quand on rentre, il y avait une table allongée, donc de suite, j'ai parlé bébé. Et en fait, le sujet, on a parlé bébé, biberon, couche, truc qu'on a à cet âge-là, quoi. Et petit à petit, j'ai demandé ce qu'étaient les tableaux. Ils ont toujours des tableaux chez eux de Jean Dubled. La grand-mère, c'est magnifique, ils ont des images magnifiques. Et moi, je faisais remarquer, mais sincèrement, sans penser à quoi que ce soit, je disais, mais la photo de ta grand-mère en Algérie, c'est la photo de ma grand-mère encore, c'est la même. Avec l'eau sur la tête, les trucs, c'est la même. Et là, elle s'est dit, oh, Corse, d'habitude, les Corses, on est vus comme des gros racistes. Et là, d'un seul coup, il fait un lien Corse-Algérie, ce qui est un lien, pourtant, le lien est énorme, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, tu as noué une relation de proximité telle, sans le vouloir, au début, que le sujet de la drogue arrive tout seul. Son ado arrive tout seul dans la discussion. Je n'ai pas posé une question, c'est de la discussion. Et au final, elle appelle l'ado et elle l'amène par l'oreille. Elle dit, le journaliste, il est bien, tu lui parles. Et l'ado, il me parle. Et aussi, autre chose qu'il fallait vite comprendre, c'est qu'il faut arrêter de parler au dealer pendant qu'il deal, parce qu'il travaille. Et donc, en fait, il faut leur parler ailleurs, quoi. Il faut donner des rendez-vous. Et après, il faut les observer pendant qu'ils dealent. Et tu rassembles les deux. Tu mélanges un peu les techniques. Évidemment, le petit dealer, pendant qu'il deal, si tu lui parles, il sait qu'il a tous les yeux sur lui. Donc, il faut qu'il fasse le mariole. Il faut qu'il te raconte que c'est les couilles en or, qu'il n'y a pas de problème, que lui, il fait ce qu'il veut, que c'est le plus fort, qu'il va devenir un grand. C'est obligatoire, parce que ça marche comme ça. Mais quand tu l'as en tête à tête, surtout quand tu es passé par la maman, tu n'as plus la même histoire du tout. Déjà, tu as des gamins en face de toi et pas des petits hommes. Et en plus, ils te racontent ce qui se passe vraiment. Et après, deuxième source, après, c'est les petits dealers. Et là, je suis remonté à mes années d'agent de sécurité, des mecs qui ont pris du poids depuis, et c'est de la discussion avec, ils te racontent ce qui se passe, ce qui se fait, parce que c'est leur job, comme on raconte un job, quoi. Comme un boulot, comme un autre pour eux. Et après, voilà, ils ont bien vu aussi que je ne suis jamais dans la dénonciation, que je suis pas dans des jugements moraux à la con, que j'en fais pas des héros non plus. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui a plu. Je reçois des messages encore aujourd'hui de types que je sais dedans qui me disent c'est bien, au moins on lit des trucs vrais sur ce qu'on est vraiment, quoi. Alors pourquoi les voyous te lisent ? Ils te lisent parce qu'ils cherchent de l'info, en fait. Ils te lisent pas parce qu'ils font de la sociologie. Hein. Ils te lisent parce qu'ils cherchent de l'info. Et t'es l'une de leurs premières sources d'info. Voilà. Parce que même si on dit pas tout, quand on explique un fait, c'est passé ça à tel endroit, eux, ils compléteront derrière. Avec le bouche à oreille, ils compléteront de qui a fait quoi, quand nous, on le sait pas. Mais par contre, le fait, ce qui arrive, ça passe. La lecture du fait divers est une lecture de travail de tout petit voyou, quoi. Donc, en fait, tu as une proximité qui n'est pas si compliquée à avoir avec eux. Après, il ne faut pas trahir. Et les très gros voyous, tu passes par les avocats. Très simple. C'est les plus simples. Très gros voyous, c'est les plus simples. Et après, tu sais qu'il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Moi, j'ai eu un coup de fil un jour. Allô, Pujol, ouais, je suis tel nom, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis compris que ça part en couille. Il me fait, tu as des enfants, c'est important, les enfants. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que généralement, on ne t'embête pas. Et en fait, ce gros voyou-là, un gros, hein, un méchant, hein. Il avait été interpellé le même jour qu'une autre bande de gros voyous, et les flics avaient joué un jeu un peu à la con. Ils m'avaient dit, on a eu les voyous A et le voyou B. Et moi, j'ai écrit donc un papier comme quoi, ce jour-là, on a attrapé A et B en même temps. Oui, mais en fait, ils ne sont pas du même clan du tout. Et quand tu écris ce papier, tu donnes l'impression que c'est ensemble, qu'on les a pris ensemble. Et l'autre, ce qui l'embêtait, ce n'était pas mon papier qu'on a dit qu'on attrapait, mais que les autres voyous... Les voyous C et D, quand ils lisent, ils se disent « Mais attends, ça veut dire qu'ils sont ensemble ?» Alors là, ça va pas se passer comme ça. Lui, ça l'embêtait. Comme c'est des mecs qui savent que menacer. Au lieu de me demander ça poliment, et de suite, il m'a mis le couteau sous la gorge, la calage dans la bouche et tout ça. Enfin, bref, tout de suite, il fallait... Bon, moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Parce qu'en plus, ce qu'il m'a dit, c'était la vérité. Il m'a dit « J'ai été interpellé à tel endroit, sur mon scooter. Je n'ai aucun lien avec les autres qui ont été interpellés ailleurs. Ils ont fait une opération, j'étais pris ce jour-là. » Et donc, j'ai fait un article totalement inutile pour le lecteur, mais qui était utile pour lui et pour moi, puisqu'indirectement, il était quand même très menaçant. Et après, j'ai eu, par une autre voix, un petit mot comme quoi « Merci beaucoup, et très content, ça lui a enlevé une épine du pied. C'est bien de bosser avec des journalistes qui sont réglo. Les flics, c'est des salopards parce qu'ils jouent à un jeu bizarre. » Et moi, j'ai fait passer le message, j'ai dit « La prochaine fois, pas besoin de me menacer, je peux le comprendre. » Voilà, on n'est pas obligé tout de suite de menacer de mort quelqu'un. C'est pas une obligation, quoi. Il m'est arrivé plusieurs trucs. Une fois, il y avait un règlement de compte qui avait eu lieu dans une cité du 3e arrondissement, qui n'était pas une cité mal famée particulièrement. Et moi, j'ai toujours la même méthode quand je vais sur le terrain. Je regarde où sont les collègues et je n'y vais pas. Pas du tout parce que je méprise, mais parce que je me dis, s'ils y sont, toute l'info qu'ils vont avoir, je l'aurai, puisqu'ils discutent, et donc je vais me mettre ailleurs. Donc là, il y avait un gros réglo et je m'étais mis parmi une bande de jeunes qui étaient sur une butte. Et sans ressembler du tout à un journaliste, mais le bon vieux badaud que je peux être. Et là, je les entendais discuter sur qui avait tué qui, pourquoi. En gros, ils racontaient toute l'histoire. Ils savaient tout, comme c'est très souvent le cas. Et il y en a un qui avait vu que c'était un journaliste qui avait parlé. Il se tourne vers moi, il fait « Oh, il se gave le journaliste, là, il a tout. » Les autres, ils se tournent vers moi, « Tu es journaliste ?» Je fais « Ouais, mais tu es un peu emmerdé, là. » Et là, ils sortent les couteaux. Et puis je me suis vite approché de flics, et là, les génies de flics, ça les a amusés. J'ai été coincé entre eux, qui me laissaient pas passer, et les minots avaient les couteaux derrière qui les montraient. Et les flics étaient absolument pas là pour m'aider, mais ils disaient, j'attends. Et comme ils savaient qu'ils allaient rester là 3-4 heures, ils se disaient, il va pouvoir rester là 3-4 heures. Et les autres, ils étaient patients aussi, se relaient. Donc moi, au bout de 10 minutes, j'ai pu passer un commissaire que je connais, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit, allô, monsieur le commissaire, regardez sur votre gauche, cherchez pas à comprendre, quelqu'un va forcer, je vais me faire interpeller, c'est moi, c'est Pujol. Et donc je suis passé, ils m'ont mis par terre, l'autre il a compris, il est venu, il a fait hop, 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 voilà, il m'a raccompagné après derrière, j'ai pas eu les menottes, j'ai pas eu tout ça. Mais t'es obligé d'improviser un truc là, Parce que les gars, ils vont pas te tuer, hein. Ils vont te faire une balafre. Il y a ça, après, oui, après, moi, j'étais wanted dans certaines cités. À un moment, sur une cité en particulier, un réseau m'avait accusé d'avoir raconté le trafic d'armes, mais avec les détails de qui trafiquait. Or, j'avais raconté le réseau, le trafic d'armes, mais sans que personne soit identifiable. Mais du bouche à oreille, chacun avait dit, ouais, il y a un tel, il est là, il dit qu'il y a un tel, ça. Et là, j'étais wanted, là, pendant un moment. Et là, j'avais eu le préfet de police qui m'avait proposé une protection policière. Et il m'avait mis des voitures de police qui tournaient en bas de chez moi. À chaque fois que j'étais en scooter, qu'un scooter se mettait à ma hauteur, c'est en 2014-15, ça. Pouh, je me disais, ça y est, c'est fini. La paranoïa, quoi, hein. La paranoïa. En fait, c'est jamais arrivé. Et petit à petit, après, un jour, je suis retourné dans cette cité. J'ai vu qu'en fait, on me reconnaissait pas, qu'ils s'en foutaient. Et le voyou en question, qui avait une dent contre moi, mais j'étais pas du tout son problème principal, a depuis été tué. Un événement aussi. Des fois, t'es sauvé par des trucs à la con. On devait être en 2008, 2007, 2008. J'étais dans une cité, la sonnerie de mon téléphone, c'était, alors l'accent, je suis désolé, hein. J'ai un accent marseillais, mais Inside the Brain de Cypress Hill. Donc le début en guitare, là, avec la guitare qui crie là et le rythme. Et j'avais laissé mon téléphone avec la sonnerie. Et je suis dans une cité, je suis avec un minot qui doit avoir 16-17 ans et un mec qui a une trentaine d'années, un peu comme moi à ce moment-là. Et on discute et je sens que ça part en vrille. Et là, je sentais que c'était foutu. J'étais déjà trop profondément dans la cité. Ils n'avaient pas pigé qui j'étais. J'avais mal joué le truc. Et je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Et le gars de 30 ans ne disait rien, mais il m'aidait pas du tout. Il m'aidait pas du tout. Et à ce moment-là, ma sonnerie démarre. Alors je me dis, c'est bon. Encore pire, tu vois, ça va les provoquer. Et c'est Cypress Hill qui démarre. Et là, le mec de 30 ans, il me regarde, il fait, oh, Cypress Hill. Je fais, ouais, Inside the Brain. Ah ouais. Et puis là, il me prend autour du cou, là. Et il me raccompagne. Je comprends qu'il se saisit de ça. Il me raccompagne et on parle rap. Et donc tu te dis, bon, ça va, je vais être sauvé par du rap, quoi. Alors que Marseille aujourd'hui, s'il y a bien une ville qui te sauve pas par le rap, c'est bien Marseille, quoi. C'est même la décadence du rap. Donc d'un seul coup, j'étais sauvé par le rap et par une erreur, c'est-à-dire d'avoir laissé une sonnerie, ce qui se fait pas. Donc t'as des trucs à la con des fois qui te sauvent de façon inattendue, quoi. Qu'est-ce qui me serait arrivé? Sûrement pas quelque chose de dramatique, mais des embrouilles, ouais. Après, je fais beaucoup d'erreurs, moi, hein, plus jeune, hein, peut-être brûlé, que je ferais plus maintenant. Le truc d'aller dans les caves, c'est de la connerie pure. Normalement, je dois m'arrêter, j'y vais pas, quoi. Juste pour un papier derrière, qu'est-ce qu'on s'en fout. Il faut être beaucoup plus sécurisé. Moi, j'ai fait trop de bêtises plus jeune. Après, j'ai arrêté. J'étais un peu trop couillon, quoi. Toujours cette volonté d'avoir le truc en plus. Et je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal au final.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.